Sur ce verset de Actes 10, verset 37, il y a cette magnifique description de la manière comment Jésus marchait sur la terre. Il dit ceci: « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. » Amen. Jésus a marché sur la terre. Et ici, on a cette belle description, on peut l'imaginer, hein, bien sûr, où Jésus parcourt, et on va le voir tout à l'heure, eh bien, ce territoire de Palestine, même d'Israël, même au-delà, hein, au-delà, puisqu'il ira jusqu'à Tyr et Sidon. Mais Jésus marchait dans un but, c'était de proclamer la bonne nouvelle, c'était de libérer, d'affranchir et de pardonner. Et de cette manière, eh bien, il va rayonner, il va sillonner pendant plus de 3 ans et demi, eh bien, ces différents territoires. Alors, il a marché sur la terre, précisément, d'abord, il a marché en Galilée. Hein, il a marché en Galilée, c'est quand même son territoire de prédilection. La Bible nous dit que il va grandir à Nazareth, même s'il est né à Bethléem, hein, donc en Judée. Il remonte, vous regardez sur une carte, c'est plus au nord d'Israël. Il va grandir à Nazareth. Et il va exercer, eh bien, on l'oublie trop souvent, son métier de charpentier. Il va certainement devenir un soutien de famille. Hein, après la guerre, souvent, eh bien, certains aînés sont devenus soutiens de famille, hein, parce que le papa n'est jamais revenu de la guerre. Et alors, on s'est retrouvé avec des familles à 16 ans, 17 ans, 18 ans. On devenait soutien de famille parce que le papa n'était plus là. Et il fallait, bien sûr, bien travailler pour que la maman et puis les nombreux frères et sœurs aussi qui étaient là, eh bien, puissent aussi manger au quotidien. Et Jésus, en quelque sorte, on apprend que Joseph est décédé, est devenu certainement soutien de famille. Il a exercé son métier de charpentier à Nazareth. Et Jésus a connu aussi bien la vie d'un charpentier, non seulement en travaillant bien sûr le bois, mais dans le commerce. On lui a commandé des portes, on lui a commandé des fenêtres, etc. Est-ce que tout le monde pouvait toujours payer d'un coup? Est-ce que c'était échelonné? Est-ce qu'il y avait des mauvais payeurs? On peut imaginer cela. Vous savez, on est tellement habitué à spiritualiser, hein, qu'on passe des fois complètement au-dessus. Mais Jésus, oui, a eu des difficultés peut-être, là aussi, des moments de crise au niveau du travail, parce que le bois était plus cher. Je ne sais pas, mais Jésus a vraiment vécu cette vie à un tel point qu'on va l'appeler, eh bien, Jésus de Nazareth. On va l'appeler le Nazaréen, parce qu'il était attaché à son village, il était connu, il était charpentier, et il avait un métier qu'il exerçait avec passion, avec droiture, avec justesse, mais il exerçait bien sûr ce métier. Et puis, dans Matthieu 4, 12, il est dit qu'à un moment donné, après l'annonce de la mort de Jean-Baptiste, eh bien, il va habiter à Capernaum. Toujours en Galilée, on est. Et là, à partir de Capernaum, il va exercer son ministère, effectivement, hein, pendant plus de 3 ans, 3 ans et demi, eh bien, Jésus va marcher. Hein, d'abord, il va marcher en Galilée. Nazareth, ça veut dire hauteur, ça veut dire garder, ça veut dire prospère. Et puis, j'aime bien Capernaum, ça veut dire couverture de consolation. Hein, littéralement, c'est le village de Naïm, mais ça veut dire couverture de consolation. Et c'est à partir de Capernaum que Jésus va exercer son ministère, qu'il va aller de ville en ville, de village en village, pour proclamer la bonne nouvelle. Une première réalité pour nous ce matin concernant, bien sûr, Jésus, c'est lorsqu'il se déplace vers nous, lorsqu'il vient vers nous, eh bien, c'est pour nous apporter sa prospérité, sa couverture également de consolation. C'est une prophétie d'Ésaïe qui va s'accomplir, d'ailleurs les textes le rappellent, mais dans Ésaïe, il est dit ceci au chapitre 8, « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui traversaient dans le pays, qui vivaient dans le pays de l'ombre, de la mort, une lumière s'est levé. » À tel point qu'on va appeler Capernaum sa ville. Là, il va exercer, bien sûr, nous le savons bien, de nombreux miracles. Prospérité et consolation. Alors, quand on parle de prospérité, ce n'est pas simplement une prospérité financière. Ça peut l'être, pourquoi pas. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Mais quand je parle de prospérité, je parle de cœur, de cette sérénité, de cet être intérieur qui, malgré les circonstances extérieures, eh bien, reste confiante, reste dépendante de son Dieu. La prospérité, et puis j'aime bien l'expression « couverture de consolation ». Couverture de consolation. Hein, quand on rentre d'une journée peut-être dehors, où il a fait moins 10, etc., où il a plu, ou des conditions difficiles, on aime bien revenir chez soi avec un bon feu de cheminée, peut-être une couverture, voilà. On est fatigué, mais on a besoin d'une couverture de consolation, pas simplement un petit plaid hein, qui nous fait dépasser les pieds, etc., mais une bonne couverture. Et tout est couvert. Et là, pendant quelques instants, bien, on est réconforté. On a besoin ce matin, certainement aussi, non pas d'un mouchoir de consolation, hein, non pas d'un petit vêtement de consolation, mais d'une couverture de consolation. Et quand Jésus vient à nos rencontres, quand il se déplace, quand il marche vers nous, il le fait encore par son esprit, par sa parole, par les dons spirituels ce matin, eh bien c'est tout le sens de Jésus. Il apporte prospérité et une couverture de consolation. Amen. Une couverture de consolation. C'est à Capernaum, qu'il vit et qu'il accorde ses premières guérisons. La guérison d'un serviteur, d'un centenier romain. Et cet homme, qui n'est pas croyant après, de nature, c'est un romain, un occupant, va dire, « Seigneur, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. Seigneur, ce matin, j'ai pas le cœur peut-être à te faire de grandes prières. » J'ai tellement l'esprit embrouillé par toutes sortes de pressions. Seigneur, dis un mot. Seigneur, j'ai besoin de ta couverture de consolation. J'ai besoin de ta prospérité intérieure. J'ai besoin d'être rassuré, d'être encouragé. Jésus marche encore ce matin, comme il a marché en Galilée. Et puis, il y a la guérison de la belle-mère de Pierre. C'est extraordinaire. Hein, ils sortent de la synagogue, ils sortent du culte. Et puis, la belle-mère est là, une fièvre. Et à l'époque, ce n'est pas quelques cachets qui peuvent soigner une fièvre. Parfois, bien, ça peut être la mort. Et la fièvre peut être terrible, elle peut terrasser. Et là, la Bible nous dit que Jésus va guérir hein, cette belle-mère qui va se lever et puis servir ensuite le repas. Et c'est là qu'on assiste à des délivrances de démoniaques. C'est là qu'on assiste à cette guérison du paralytique. Hein, au nom de Jésus, que tes péchés soient pardonnés, lève-toi et marche. Et tout cela, c'est à Capernaum, une couverture de consolation, une prospérité apportée à cette ville. Et ce matin, de la même manière, Jésus marche vers nous, comme il a marché en Galilée. Jésus a marché aussi en Judée. Alors, si vous avez une carte, la Judée, c'est en dessous. Et entre les deux, vous verrez, il y a la Samarie. Mais là, Judée, ben, c'est Bethléem, c'est Jérusalem, c'est Béthanie. Et c'est une région là qui est particulière, elle est différente. Notamment en ce qui concerne le ministère de Jésus, l'accueil que cette région a fait au ministère de Jésus. On se souvient de ces moments où Jésus rentre à Jérusalem, « Hosanna, fils de David, sois béni !» Et puis quelques jours après, c'est « crucifie-le !» Et la Judée, c'est une terre de contraste entre hospitalité et puis hostilité, entre accueil et rejet. Et dans cette terre, eh bien, ces oppositions vont se manifester. C'est une image aussi de nos vies qui eh bien, peuvent là aussi ressembler, parfois même en une journée, en une matinée, voire en quelques heures. On est en haut et puis quelques instants après, on est en bas. Quelques instants, eh bien, on est capable oui, de bénir, de sauter de joie pour le Seigneur. Et puis un coup de téléphone, quelque chose, eh bien, c'est pas qu'on lui tourne le dos, mais on est déçu, on dit « Seigneur, mais pourquoi ?» etc. Et ces sentiments bien, sont en nous. Mais pourtant, malgré les circonstances sur cette terre de Judée, malgré nos cœurs, Jésus cherche toujours à marcher et à marcher encore envers nous. Et il marche encore ce matin envers nous, même si on a ces sentiments aussi. Nous sommes tous faits de la même pâte. Et en une journée, on peut passer tous par ce yo-yo spirituel, ce yo-yo émotionnel. Tous, ça nous arrive à tous. Et pourtant, sur cette terre, entre hostilité et hospitalité, Jésus va marcher encore. Luc 15, 4, le bon berger, il part à la recherche de la brebis perdue et il va faire des kilomètres. Et puis, au bout de 5 kilomètres, oh, j'en ai assez, moi, il fait trop chaud, il faut que je rentre. j'ai un barbecue qui m'attend, etc. Il faut que je rentre à la maison. Non, la Bible nous dit que le bon berger, il va marcher, il va faire des kilomètres, il va prendre sur lui, peut-être même marcher pendant la nuit. Et l'Écriture dit, il va à la recherche de la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et malgré les kilomètres qu'il a fait, malgré la fatigue d'avoir cherché peut-être d'être passé dans des lieux difficiles, eh bien il la prend encore sur ses épaules et la ramène. Il la ramène donc à la bergerie pour la soigner. Il y a une bonne nouvelle ce matin, c'est que malgré nos cœurs qui sont inconstants, qui font le yo-yo spirituel, eh bien Jésus marche et marche encore toujours vers nous. Afin de trouver, de retrouver notre cœur, de nous apaiser, de nous fortifier, de nous éduquer. De dire, là, écoute, bon, on va faire quelques pas ensemble et je vais t'expliquer quelque chose. Mais il va le faire, il va le faire. Il va se mettre à notre niveau. Mais ce matin, oui, nous sommes comme cette terre de Judée. On peut avoir ses hauts et ses bas, mais Jésus marche et marche et marche encore vers nous. Et puis, entre ces deux territoires, je ne sais pas si vous avez une carte d'Israël dans la tête, hein, entre la Galilée qui est au nord et puis la Judée qui est au sud, il y a un petit territoire. Vous vous rappelez duquel ? Jésus y a été, comment ? C'est la Samarie, exactement, c'est la Samarie. C'est la Samarie. Et Jésus a aussi marché en Samarie. Il dit, mais pourquoi le pasteur, il fait un truc sur la Samarie ? C'est tout à fait normal que pour passer du nord au sud, on prend la ligne droite, on coupe et on passe par la Samarie. C'est tout à fait normal que les Juifs et que Jésus a traversé la Samarie. Eh bien non, ce n'est pas du tout normal. Parce que les Juifs et les Samaritains, ça fait des centaines d'années qu'ils ne peuvent pas se voir. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils ne peuvent pas se supporter. Et chacun des griefs, chacun se haït cordialement et spirituellement avec toutes les bonnes raisons du monde. Et aucun Juif qui part de la Galilée pour aller en Judée ne va traverser la Samarie, il va se souiller. Alors, on va contourner la Samarie et on va descendre par la vallée du Jourdain. Voilà, c'est plus long, mais c'est plus sain. Et les Samaritains, c'est la même chose. Hein. C'est en tout cas une haine réciproque. Une haine réciproque. Mais là encore, eh bien, Jésus va traverser, va s'arrêter en Samarie. Et il y aura ensuite un réveil en Samarie, vous en souvenez, avec Philippe. Hein. C'est extraordinaire. À tel point que lorsque on ne va pas à un moment donné aussi accueillir Jésus, deux frères, Jacques et Jean, qu'on va surnommer les fils du tonnerre, vont faire cette belle demande à Jésus, « Veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume tous ?» Oh, c'est extraordinaire, hein ? Ils voulaient rayer de la carte la Samarie. Voilà, c'est parce que on ne peut pas traverser la Samarie, on va se souiller. Il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour briser les haines, les vengeances, les conflits, les plus radicaux, les plus profonds, les plus ancestraux, les plus familiaux. Et quand je parle de famille, je parle de ma propre famille, hein, je ne parle pas de la vôtre. Mais on a tous dans nos familles eh bien, ce genre de guerre, ce genre d'a priori. Ce genre, et parfois, on ne sait même pas d'où ça vient. On nous les a transmis. Et puis voilà, c'est comme ça. On ne parle pas à tel tonton ou à tel tata. Ou alors, il y a quelque chose... Alors, attention, je dis... Il faut quand même aussi analyser les situations. Mais il y a quand même pour nous quelque chose qui est important, c'est au moins le pardon. Même effectivement, je peux le concevoir que dans certaines situations, on ne peut pas rétablir une relation normale de confiance avec certaines personnes. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il y a parfois dans nos vies eh bien, des distances qu'on doit ensuite prendre pour nous, pour nos enfants. On est bien d'accord. Mais au-delà de cet aspect, on va dire, normal, il y a quand même un aspect au niveau du pardon que Dieu doit nous accorder. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être encore parfois dans nos vies comme des territoires de Samarie. Seigneur, viens m'aider là aussi, parce que toi, tu as marché en Samarie. Et tu veux me conduire aussi dans la réconciliation, tu veux me conduire dans le pardon, tu veux me conduire dans la repentance, tu veux me conduire là aussi à réfléchir, à revenir sur mes voies. Vous savez, vous rappelez hein, de cet exemple de cette femme qui a été pardonnée par Jésus. Tout le monde l'avait condamnée, et on va dire à juste titre. Hein. Elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère, mais Jésus, on connaît bien sûr sa parole, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Tout le monde s'est retiré. Et ensuite, il dira à cette femme, « Mais femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il accusé? Eh bien, va, je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche plus. » Quelle traversée là aussi de Jésus, quelle marche. Il est venu vers cette femme qui était condamnée, mais il l'a libérée, il l'a franchie. Elle dira ensuite, dans Jean 8, 12, cette belle parole qui concerne toujours la marche, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres de la vie, mais il aura en lui la lumière de la vie. » Amen. Oui, Jésus a marché aussi, a traversé la Samarie. Il ne s'est pas souillé, il n'est pas devenu impur, mais au contraire, il a appris à ses disciples eh bien, que le pardon, que la grâce, que la haine pouvaient être brisés également dans le nom de Jésus. Amen. Être brisé dans le nom de Jésus. Jésus a marché sur l'eau. Vous connaissez ce texte, hein ? C'est dans Matthieu 14, verset 24. Voilà ce qu'il est dit dans Matthieu 14, verset 24. « La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue vers les vagues, car le vent était contraire. Nous sommes donc à Galilée, hein, le lac de Galilée. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et ils dirent, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. » Alors ça, c'est le miracle par définition. Puisque selon les lois établies par Dieu lui-même, personne d'entre nous ne peut marcher naturellement sur l'eau. On peut nager, on peut flotter, on peut barboter, mais marcher sur l'eau, c'est une loi physique, etc. Et là, c'est le miracle, parce que Dieu est souverain même pour saisir ses propres lois et puis de temps en temps bien, s'en approprier. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Et Jésus va marcher sur les eaux, c'est un véritable miracle. On peut nager, on peut flotter, mais pour nous, il est impossible, bien sûr, de marcher sur l'eau. Et Jésus va se rendre là, finalement, où on ne peut pas aller. Jésus va marcher là où on ne peut pas où marcher et où nous allons nous enfoncer. Jésus va se déplacer là où, pour l'instant, il nous est impossible de nous y rendre. Jésus marche là où nous ne pouvons pas aller, là où nous, on va s'enfoncer, là où on va s'écrouler, là où on va se noyer. Un exemple, qui d'entre nous ce matin peut s'approcher de Dieu en marchant sur les sentiers de sa justice, de son expérience, de ses dons spirituels, de sa foi, de son amour pour Dieu, de ses prières, de ses exaucements de prières, etc. Personne. Personne d'entre nous, même si tout ce que je suis devenu en Christ est juste, si tout ce que j'ai expérimenté est bon, personne. La seule possibilité que nous avons ce matin, c'est de suivre les empreintes de Jésus, lui seul, qui a ouvert le chemin pour nous de nous approcher de Dieu. Il n'y a que Jésus qui a ouvert cette porte. Dans Hébreux 10, versets 19 à 20, il est dit que Jésus a inauguré pour nous une route nouvelle. Et il n'y a que cette route qui nous est proposée pour nous approcher de lui. Bien sûr que personnellement, je vais marcher, mais je vais marcher sur les empreintes de Jésus. On ne peut pas par nous-mêmes, même avec toute notre expérience, notre savoir, notre connaissance, nos dons, nos ministères, etc. accumulés, eh bien, nous approcher de Dieu. C'est impossible. Mais béni soit Dieu ce matin, eh bien, Jésus a inauguré une route impossible pour nous à prendre seul, mais elle est inaugurée. Et nous pouvons, chaque jour, eh bien, l'emprunter. Cette route, c'est vrai, elle peut être parfois étroite. Je n'ai jamais été donc avec un guide de montagne pour découvrir des sommets, mais j'imagine que si un jour, ou ceux qui ont fait l'expérience, vous avez loué les services d'un guide de montagne dans la neige, etc., et puis il a dû vous dire, eh bien là, surtout, vous mettez vos pieds là où je vais mettre les miens. Parce que vous ne savez pas si à droite, il n'y a pas une crevasse, si à gauche, il n'y a pas un précipice, etc. Et vous allez bien faire attention de marcher là où il a marché. Parce qu'autrement, c'est à vos risques et périls. Et ce matin, bien, c'est la même chose pour nous. Lorsque Jésus marche sur les eaux, c'est impossible pour nous. Mais, comme pour Pierre, il va nous y inviter aussi à marcher. Il va nous inviter à sortir de la barque, sortir de notre zone de confort. On a dit beaucoup de choses sur ce texte. mais finalement, bien traverser. Et peut-être que ce matin, nous sommes dans des impasses. Nous sommes devant des mers rouges qui sont fermées. Nous sommes devant des montagnes qui nous sont infranchissables. Il y a une bonne nouvelle. C'est que Jésus a marché sur les eaux. C'est que Jésus, là aussi, nous invite à ouvrir et il va ouvrir un chemin pour nous afin que nous marchions sur ce chemin. La montagne, on en avait parlé, peut-être qu'on va la contourner, peut-être qu'on va l'escalader, peut-être qu'il va l'ôter, peu importe, mais il va nous montrer une voie, un chemin sur lequel nous allons pouvoir nous y engager. Et puis, on a dit beaucoup de choses sur Pierre, hein, mais quand même, pendant quelques instants, il va marcher sur la parole de Jésus. Je crois que c'est plus sur la parole de Jésus qu'il va marcher, parce que quand il va se rendre compte, à un moment donné, avec son fonctionnement intellectuel, que pour lui, il marchait sur les eaux, il va dire « Ah, c'est pas possible », et là, il va s'enfoncer. Mais tant qu'il marchait sur une parole de Jésus, eh bien, oui, il était au-dessus de l'eau. Il surnageait. Et il y a une bonne nouvelle ce matin, c'est que, eh bien, en marchant sur la parole de Dieu, hein, bien sûr, pas sur le texte, mais sur une parole que Dieu a mise sur notre cœur, eh bien, comme Pierre, on va pouvoir descendre de nos barques et puis marcher là où il était impossible pour nous jusqu'à maintenant de marcher, ouvrir un autre chemin, ouvrir pour nous, eh bien, quelque chose qui était insoupçonnable. Jésus n'est pas limité. Et il nous entraîne ce matin... Eh bien, dans des chemins qui, jusque-là, peut-être, nous ont été inconnus. Et puis, je termine par cette dernière pensée pour nous. Jésus marche au milieu de l'Église. J'aime bien le texte d'Apocalypse 1, versets 12 à 13, parce qu'il y a une vision de Jésus qui est essentielle pour une bonne compréhension du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse peut parfois effrayer certains croyants, oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Mais ce livre de l'Apocalypse, eh bien, il est présenté à Jean, au contraire, pour avertir, pour exhorter l'Église de la toute-puissance, de la souveraineté de Jésus. Et la description que Jésus fait de lui-même à Jean, elle est extraordinaire. Et puis, elle nous introduit aussi pour nous quelque chose d'important. Apocalypse 1, verset 12. Voilà ce qu'il est dit. « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. » M'étant donc retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe. Il portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles. Sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. On comprend que quand Jean a cette vision, hein, il tombe à terre comme mort. Et puis, voilà ce qu'il est dit aussi au chapitre 2, verset 1er. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans la main droite. » Les sept étoiles dans la main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, etc., etc. On a ici la vision de Christ comme dans toute sa puissance, dans sa force, dans sa majesté, dans sa gloire. Excusez-moi l'expression, ce n'est pas le petit Jésus de la crèche. Mais ici, c'est Christ qui revient ainsi dans toute sa royauté, dans toute sa majesté, et rien ne peut lui résister. Il a toute autorité. Cette description, je veux dire, elle nous marque. On aurait été à la place de Jean, on aurait fait la même chose, on était par terre, hein, devant cette vision aussi impressionnante de la gloire de Christ, etc., dans toute sa puissance. Et puis, il est dit ensuite qu'à partir de cette vision, bien, Jésus va écrire aux sept églises de l'époque. Et il y en a cinq sur lesquelles Jésus va faire quelques reproches, bien entendu, avec une solution. Mais ce que je veux dire, c'est que même ces remarques de Jésus, il les fait lorsqu'il marche au milieu de l'Église. Il dit ceci, « Et je vis celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, au milieu des sept églises. » Et il y a cette vision de Jean qui voit Jésus marcher au milieu de son peuple. Il marche au milieu de l'Église. Et ce matin, bien ce qui doit nous rassurer, nous encourager, même si de temps en temps, parce que Jésus, on va le voir, nous prépare, eh bien, Jésus va nous faire quelques remarques, va nous commander peut-être certains éléments de nos vies qu'il faut changer. Eh bien, même quand ça arrive, Jésus marche. Il ne fait pas de l'extérieur, mais il le fait de l'intérieur. Alors, pourquoi marche-t-il ? Eh bien, pour préparer son épouse. pour ce grand rendez-vous aux noces de l'agneau. C'est donc la marche d'un époux ce matin qui se réjouit de ses noces. Hein, souvenez-vous de vos temps de fiançailles. On n'attendait qu'une chose, c'était le mariage. Hein, et le temps nous semblait bien long. Je veux dire, chaque moment avec notre fiancé au bout du fil, à l'époque, et encore, c'était le téléphone. Hein, cring, cring. Les jeunes, ils n'ont pas connu ça. Maintenant, c'est visio, ça va, etc. Mais hein, à l'époque, c'était le... avec le téléphone à cadran, etc. Chaque moment, c'était un moment de joie, etc. Et puis, on attendait, bien sûr, et Jésus marche de cette manière ce matin. Il marche au milieu de l'Église pour préparer son épouse. Hein, nous savons que dans Jean 14, il dit, bien, je vais vous préparer une place, et quand cette place sera prête, je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et Jésus, ce matin, marche au milieu de nous, et il se réjouit. Dans cette préparation, bien entendu. Et puis, il marche aussi comme un sage architecte, comme un maître d'œuvre. Il dit, je bâtirai mon église. Ça, c'est pour Johan, hein, qui fait des études d'architecture. Voilà. Je pense qu'il ne va pas me contredire, autrement, il aura le droit. Hein, mais quand un maître d'œuvre ou un architecte, eh bien, ont une responsabilité, ont signé les plans, ils ont intérêt à veiller sur le chantier. Hein, parce que parfois, les maçons, au lieu de mettre une fenêtre ici, vous mettent une porte. Parfois, ils vous mettent un conduit de cheminée qui déboule sous une poutre, maîtresse, etc. La porte d'entrée, elle devient une porte de service, et là, vous grattez la tête. Et si l'architecte ou le maître d'œuvre n'a pas fait son travail, à la remise des clés, le client va dire « Ouh là là, mais il y a un petit souci. Il y a un petit souci. » Et le client aura raison. Alors Jésus, il marche au milieu de l'Église parce qu'il a établi ses plans, parce qu'il prend soin que les matériaux sont conformes à ce qu'il veut, là aussi. Hein. Je pense que c'est le maître d'œuvre ou l'architecte qui doit veiller que les matériaux sont conformes au plan, etc., avec les normes qu'il faut, que l'électricien a bien fait les choses, etc., etc. Et ça, c'est le rôle de Jésus. Il veille. Et puis, s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, eh bien, Jésus le dit. Jésus nous le dit. Et s'il y a des travaux qui traînent un petit peu, Jésus le dit. Il voit si ses ouvriers travaillent dans de bonnes conditions, si les conditions de sécurité sont respectées, si les normes sont respectées. Et Jésus prend soin de nous en tant qu'ouvriers également. Et il veut que nous soyons des ouvriers en bonne forme pour travailler à l'Église de Jésus-Christ. Amen. Comme un époux, comme un sage architecte, comme un maître d'œuvre, Jésus marche au milieu de nous. Il a dit, je bâtirai mon église. Et puis dans Éphésiens 5, et on terminera ensuite par ce texte d'Éphésiens 5, versets 25 à 27. Voilà ce qu'il est rappelé. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Voilà ce qu'il est dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, rien semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Souvenons-nous que l'église demeure l'appui et la colonne de la vérité. L'appui et la colonne de la vérité, et Jésus marche. Alors, ce matin, soyons pleinement rassurés que Jésus marche au milieu de l'église. C'est un gage de son amour, c'est un gage de son attachement, c'est un gage qu'il est avec nous et qu'il nous prépare pour l'éternité. Conclusion, nous aussi marchons comme Jésus a marché. Hein, je ne vais pas développer toute la dernière partie, peut-être qu'on la verra mardi, mais juste peut-être, allez, au moins une pensée, hein, mais dans Éphésiens 5, 2, et on conclura par là, marchons comme Jésus. Voilà ce qu'il est dit dans Éphésiens 5, 2. Soyez des imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté, toutes ces formes de posséder ne soient même pas mentionnées comme il convient à des saints, etc., etc. Dans ce texte, il nous est rappelé que nous sommes invités à marcher dans l'amour. Hein, littéralement ici, il nous est dit que de suivre son exemple, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous. Hein, nous sommes ses imitateurs et nous sommes appelés à marcher comme lui à marcher. Alors, réjouissons-nous ce matin. Et il vient vers nous, il marche vers nous pour nous accorder sa prospérité, sa couverture de consolation. Il marche, même si parfois on a un cœur qui est en haut, qui est en bas dans la journée, mais il marche encore vers nous. Il marche pour nous montrer qu'il y a un chemin qui est ouvert pour qu'il n'y ait dans nos cœurs eh bien, plus de haine, d'amertume, de rancœur. Mais là aussi, il ouvre. Et puis il ouvre des chemins qui, jusque maintenant, eh bien, nous sont fermés, nous sont impossibles à suivre. Jésus marche devant, il nous précède, afin qu'au milieu de l'Église, parce qu'il est au milieu de nous ce matin, eh bien, il veut encore renouveler sa grâce et sa bénédiction. Amen. Est-ce qu'on pourrait juste chanter a cappella, ça va nous faire aussi du bien, nos musiciens répètent avec les enfants, mais ce chant, abrite-moi sous tes ailes. Tu peux le mettre, s'il te plaît, et ensuite on aura un moment de Sainte-Seine, mais que nous puissions là aussi être renouvelés dans notre espérance, marcher comme Jésus. Il marche au milieu de nous, il marche vers nous ce matin, et personne ne sera exclu, personne ne sera oublié, parce que, eh bien, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen.